commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Ouvrez avec moi vos Bibles dans Matthieu chapitre 13. Nous lirons le premier jusqu'au troisième verset. Et puis nous prenons aussi la fourchette allant du verset 31 au verset 32. Matthieu 13, 1 à 3, et puis 31 à 32. Ces mêmes jours, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule s'étenait sur les rivages. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, verset 31, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes. Il devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. J'aime beaucoup le verset 32. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes. Il devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. J'aimerais ce matin parler sur la parabole du grain de sénévé. Dans d'autres versions, on parle de la parabole du grain de moutarde. Cette parabole fait partie de ce que l'on appelle les paraboles du royaume. Paraboles au travers desquelles Jésus-Christ veut enseigner sur les réalités attachées à ce qu'il voulait faire, au mouvement qu'il était en train de commencer. Et comme je le disais la fois dernière, ces choses sont célestes, sont grandes, élevées, mais il veut expliquer leur fonctionnement. Il veut enseigner sur l'évangile et sur son impact. Il veut enseigner l'Église sur comment les choses fonctionnent. Et du reste, au début du chapitre, il est fait mention de la parabole du semeur qui sortit et qui s'est sema dans quatre champs différents. Il a jeté la semence qui est tombée dans quatre champs et il y a eu quatre résultats. Toujours, il va enseigner sur le royaume. Et puis après, il enseigne sur cette parabole où quelqu'un a semé du blé, mais un autre est venu nuitamment et il a placé aussi une mauvaise semence livrée. Mais là, il veut parler sur une réalité. Il veut montrer comment son royaume, qui commence avec un certain format, va avec le temps aller croissant. Il veut montrer combien ce qui est aujourd'hui va en progressant avoir une forme différente. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais dire un certain nombre de choses. Premièrement, cette parabole fait partie des rares paraboles que l'on retrouve dans les trois évangiles. Si vous êtes étudiant de la Bible, vous savez que dans l'évangile des Jean, il n'y a pas de paraboles. On retrouve les paraboles principalement dans Matthieu, Marc et Luc. Mais il y a des paraboles qu'on retrouve à un endroit et pas à un autre. Mais cette parabole fait partie des rares que l'on retrouve dans les trois évangiles. Deuxièmement, dans cette parabole, il est question d'un acte de départ. Il est question d'une cause. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et a semé. D'un acte de départ, un acte fondateur, un homme qui fait quelque chose avec une intention, avec un dessein, avec un projet. Troisièmement, il est fait mention non seulement de cet acte fondateur, mais aussi de la qualité et de la quantité de ce qui est le point de départ. Il y a un grain, certes, mais on associe un qualificatif à ces grains. Le verset 32 dit, c'est la plus petite de toutes les semences. Et la grande moutarde, les grains de sénévé, c'était un grain insignifiant, tellement petit comme grain, que l'on ne s'attendait pas à grand chose de la part de ces grains. Et comme je dis, il fait mention de la qualité, de la quantité de ce qui est le point de départ. Quatrièmement, il fait mention d'un changement, mais d'un changement progressif. Il y a eu ces grains avec sa petitesse, mais puis après il est dit, quand il a poussé, il y a une transformation, il devient. Ça, cela me plaît beaucoup. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas seulement, tu es aussi appelé à devenir. Beaucoup de gens nous voient dans notre aujourd'hui, mais ils ne savent pas que dans notre aujourd'hui, il devient. Cinquièmement, il est question de son état final, très différent de son état initial. Au départ, un petit grain, et même on dit le plus petit des grains. Mais j'aime ce qui est dit à la fin, quand il a poussé, il est plus grand que les légumes. Et même, il devient un arbre. Il semble que le grain de sénévé, la grande moutarde, quand on l'a semé, le plus petit mesurait 3 mètres, d'autres pouvaient aller plus loin et porter énormément, énormément de fruits. Et sixièmement, il est fait question de l'attraction que ce faible début provoque. Ce qui n'était rien, qui pouvait même être un produit de consommation pour les oiseaux, devient pour les oiseaux un endroit où ils viennent s'abriter. La Bible dit, quand il a poussé, il devient grand, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui est en toi est tellement grand que tu vas attirer des gens. Les gens te voient dans ton aujourd'hui, mais ils ne savent pas que dans ton aujourd'hui, il y a des choses merveilleuses qui sont cachées. Quand Dieu nous visite, il ne veut pas seulement nous faire du bien à nous-mêmes, mais il veut faire de nous aussi une source de bénédiction. Il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, mais il ajoute, je ferai de toi une source de bénédiction. C'est cela votre appel, c'est mon appel. Je le sens, c'est pourquoi je le déclare. S'il est vrai que cette parabole nous enseigne plusieurs choses, il y a une leçon principale que Christ veut enseigner à ses disciples. Et cette leçon, nous pouvons la donner en 3 phrases. Premièrement, ce qui commence petit peut devenir grand et même très grand. Alléluia. Ce qui commence petit peut devenir grand et même très grand. Deuxièmement, dans un petit départ peut se cacher une grande finalité, invisible au départ, mais bien présente. Dans un petit départ, dans un départ insignifiant. Troisièmement, il veut dire, ne jugez pas quelque chose simplement à cause de la modestie de son départ. Vous ne savez pas derrière ces débuts modestes les choses qui s'y cachent. Alléluia. Et cette parabole, si elle est l'expression de plusieurs choses, elle exprime principalement 2. Premièrement, cette parabole est une prophétie. Elle parle du futur de l'Église. Elle parle du futur de l'œuvre de Christ. Ce qu'il veut leur dire, en leur parlant, il dit, vous voyez ce que nous commençons ici en Galilée, de manière modeste, de manière petite comme un grain, il dit, laissez le temps passer. On en parlera partout. La preuve, j'en parle aujourd'hui à Kinshasa. Alléluia. Une prophétie. Elle parle du futur de l'Église, du futur de l'œuvre de Dieu. Il veut dire que ce qui vient de commencer avec bégayement, avec tâtonnement, ne restera pas ainsi. Il veut dire ce qui est caché ici en Galilée va prendre de la taille, de telle sorte qu'on verra cela même en des endroits où elle n'arrive pas physiquement cette heure. Christ est un enseignant fantastique et il utilise la parabole pour communiquer cette vérité. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 3, l'apôtre Paul nous parle de la raison d'être et du but de la prophétie. Il dit, lorsque la prophétie est donnée, elle a comme but d'édifier, de consoler et d'exhorter.
Et lorsque Christ parle ainsi, il va atteindre les mêmes objectifs. Il voit loin. Il voit déjà ce qui sera. Il voit la grande secousse qui a eu le jour de la Pentecôte, que Actes 2, 41 mentionne, lorsqu'il est dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, les nombres des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Il veut leur dire, nous partons ici en Galilée. Rien ne s'est fait, ni banderoles, ni affiches, ni toute autre chose. Mais voyez au fil des ans ce qui va se faire. Il voit aussi déjà ce que Actes 5, 12 à 16 dira plus tard. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Le verset 14 va plus loin. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. De sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sous des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre quelques-uns. Seigneur, que ces choses reviennent dans l'Église. Et j'aime le verset 16. J'aime surtout les verbes qui est utilisé. La multitude accourait. La Bible ne dit pas que la multitude venait. Elle accourait aussi les villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Il voyait aussi ces Actes 5, 28, voulait dire, lorsqu'il rapporte les propos des membres du Sanhédrin, presque fâchés, qui disent, ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ces noms-là? Et eux-mêmes témoignent. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Il voyait cela. Il dit, un grain de sénévé a été sémé. Un petit rien. Mais bientôt, ce grain va prendre la hauteur. Il voyait Actes 6, 7, qui déclare, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Même les adversaires sont devenus partie prenante. Mais je le crois surtout. Il voyait ce acte 17, verset 6 dit, quand quelqu'une dizaine d'années plus tard, à des milliers de kilomètres déjà, l'évangile arrive en Europe, de la bouche d'un groupe d'hommes, il est dit, ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus ici. Cette activité locale est devenue mondiale. Cette activité qui a commencé timidement à franchir les barrières et comme une grande eau qui était retenue par un barrage et une digue a cédé. Rien ni personne ne peut l'arrêter. J'aimerais dire, quand Dieu a placé quelque chose en vous, rien ni personne ne peut l'arrêter. Il voyait des milliers d'hommes et de femmes qui allaient confesser Christ et je le crois de tout mon cœur, il voyait aussi Philadelphie. Une prophétie. Et non seulement qu'il a vu cela, mais il a su les communiquer. Il a su parler au présent d'un futur qui n'était pas encore. Un futur que lui seul voyait. Et même qu'il voyait clairement. Seigneur, mets sur ma route des gens qui me communiquent un rêve. Mets sur ma route des gens qui me communiquent une vision. Il y a des gens qui n'attendent que quelqu'un leur dise, voilà où Dieu veut t'amener. La Bible dit, Christ a vu une multitude et il a reconnu que c'était des brebis, mais qui manquaient. Un berger, un guide, quelqu'un qui peut leur dire, voilà où Dieu veut nous amener. Seigneur, donne-nous une église où quand les gens ne savent pas à quoi ils sont appelés, ils découvrent cela. Quand je dis appelé, je ne vois pas seulement les ministères, les commerces, c'est aussi un appel. La politique, c'est un appel. Je ne sais pas moi, travailler à quelque niveau, c'est un appel. Et que l'église soit l'endroit où les hommes et les femmes sont équipés pour cela. Hommes, frères, pasteurs, politiciens, chefs d'entreprise, parents, et personnes placées par Dieu dans quelque position, vous êtes devant les gens. Plaise à Dieu que vous soyez de ceux qui communiquent un rêve aux autres. Christ leur a dit, voilà où nous allons. Cela arrivera. Nous ne resterons pas là où nous sommes. J'aime en lisant Genèse 50 au verset 24, nous trouvons un leader. Un Joseph, un homme appelé Joseph, qui choisit un moment crucial. Il a été le pilier. Tout s'est reposé sur lui. Du reste, ils ont été attirés dans ce pays et ils ont été bien traités à cause de lui. Et il sait que ses jours sont comptés. Il sait que déjà, ils ne se le disent pas, mais au fond de leur cœur, ils se posent des questions. What next? Qu'est-ce qu'il y aura après? Joseph qui nous soutenait va bientôt partir. Qu'est-ce qui va se passer après? J'aime ce que la Bible dit. Joseph dit à ses frères, je vais mourir.
mais Dieu vous visitera. Et une autre version dit, il vous visitera certainement. Le contexte dit, il les a regardés dans les yeux. Il leur a dit, ne vous découragez pas. Tout ne s'arrête pas ici. Il y a un futur glorieux qui vous attend. Donne-nous des gens qui nous communiquent quelque chose. Donne-nous des gens qui nous disent où nous allons. Ah, je me souviens, il y a quelques années, jeune dans la foi, j'étais en train d'adorer le Seigneur avec le bien-aimé. En 89, j'avais à peine 4 ans dans le Seigneur. Et l'un de nos responsables est descendu. Il m'a tenu à l'épaule. Il a dit, jeune homme, note ces jours et note ce que je veux te dire. Mon Dieu me dit de te dire, tu iras au-delà des mers et des océans annoncer l'Évangile. Il dit, l'Évangile fera de toi un citoyen du monde. Il m'a regardé, m'a donné presque comme des coups à la poitrine. Il me dit, je te l'ai dit, cela arrivera. Seigneur, donne-nous des gens qui nous communiquent un rêve. Donne-nous des gens qui nous disent quelque chose. Donne-nous des gens quand nous ne savons pas où nous allons. Ils nous rencontrent comme Samuel a rencontré Saül. Il a dit, à qui appartiennent toutes ces bonnes choses qu'il y a en Juda? N'est-ce pas que c'est pour toi? Donne-moi quelqu'un qui m'oriente. Donne-moi quelqu'un qui réveille les choses qui sont en moi. Il vous visitera. Il vous visitera certainement. Il dit, il vous fera remonter dans le pays pour vous amener dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il sait ce que Dieu veut et il les communique à d'autres. Mais sur ma route, quelqu'un qui dirige ma commune, quelqu'un qui dirige ma province, quelqu'un qui dirige mon pays, qui nous dit où nous allons. Dieu merci pour la communauté noire aux États-Unis qui à un moment a trouvé quelqu'un qui a su réveiller leur espoir. Il s'est levé un jour, il a dit, I have a dream. Je fais un rêve. L'inégalité ne restera pas toujours. Viendra un jour où les enfants des noirs se tiendront la main dans la main. Viendra un jour où on jugera quelqu'un, non pas à cause de sa peau, mais à cause de sa compétence. Donnons-nous des gens qui nous font rêver. Donnons-nous des gens qui nous disent où Dieu veut nous amener. Et par ces paroles, Christ veut dire, ensemble, nous allons quelque part. J'ai trouvé les paroles sorties de la bouche d'un responsable politique. Ces paroles ont été prononcées les jours de notre indépendance. On va dire, il fait la politique du haut de la chair. Non. Mais comme Jésus, je prends les choses de la vie de chaque jour. Il s'est tenu du haut de cette tribune. Il a prononcé ces paroles merveilleuses. Il a dit, ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte. Lutte sublime qui va amener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Ah, j'aime ça. Il dit, nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir lorsqu'il travaille dans la liberté. Waouh! Et nous allons faire du Congo le centre du rayonnement de l'Afrique tout entière. Donnons-nous quelqu'un qui nous dit où il veut nous amener. Donnons-nous un capitaine dans les bateaux. Donnons-nous un chauffeur dans les véhicules. Donnons-nous un pilote dans l'avion. Donnons-nous un pasteur dans l'église. Donnons-nous un vrai père dans la maison. Non pas quelqu'un du sexe masculin, mais qui ne fait rien. Il nous rappelle simplement, Gandhi Tata, qui Tata non, on en a raté. Il est fait aussi mention de quelques phrases, semblait-il, tirées de sa dernière lettre avant de mourir, qu'il écrit à sa femme et il parle à ses enfants. Il dit, je sais et je sens au fond de moi que tôt ou tard mon peuple se débarrassera de tous les ennemis intérieurs et extérieurs, qui s'élèvera comme un seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux et pour répandre sa dignité sous un soleil pur. Donne-nous des gens qui savent communiquer. C'est pour cela que j'aime quand Isaïe dit, Dieu m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole. Il ajoutera à la fin de sa lettre, à mes enfants que je laisse et que peut-être je ne reverrai plus, je veux que l'on dise que l'avenir du Congo est beau. Alléluia. Donne-nous quelqu'un qui nous fait rêver. Donne-nous quelqu'un qui nous communique quelque chose. Le 4 avril 2008, un jeune candidat à la présidence s'est levé et il a tenu un merveilleux discours qu'on a gardé dans les annales et qui lui-même a intitulé « Une union plus parfaite ». Et à la fin de son discours, il a tenu ces paroles qui sont devenues un célèbre slogan. Yes, we can. Yes, we can. Donne-nous quelqu'un qui nous fait rêver. Donne-nous quelqu'un qui nous communique quelque chose. Et je prie que jeudi après jeudi, mercredi après mercredi, aux réunions de jeunes, aux réunions des mamans, dimanche, que cet endroit soit un endroit où les gens trouvent la boussole de leur vie. Combien c'est merveilleux sur les chemins de la vie de rencontrer un prophète, un vrai, quelqu'un qui vous dit où vous allez, ce que vous allez devenir. C'est glorieux, c'est merveilleux. Je me retrouve au mois d'avril 2008 aux États-Unis, en train de manger à table avec des amis. C'est pour ça que j'aime les gens qui ont grandi dans l'exercice des dons spirituels. Ils exercent simplement, librement. Et là, j'aimerais dire surtout aux sœurs, calmez-vous quelquefois. Les mamans terribles dans l'émotivité. Une maman était un jour en train de prophétiser. Elle tardait tellement à dire un papa demandait Nzamba kokumina li kokuma. Na quoi? On était en train de manger à table et j'ai demandé juste quelque chose. La personne qui m'a donné m'a dit, voilà ce que Dieu me dit. Quand tu étais petit, tu habitais telle commune. Avec l'accent anglophone, mais la cité Bandal. À cet âge, on t'appelait tel nom. Je n'aimerais pas le dire pour que vous ne m'appeliez pas comme ça. Il a cité un célèbre joueur congolais de l'époque. Même en aparté, ne me posez pas la question. Voilà ce par quoi tu es en train de passer. Et voilà ce que Dieu va faire avec toi. Alléluia. Ces choses sont encore réelles aujourd'hui. Mon jeune frère, celui qui vient juste après moi, il était fiancé. Et puis dans l'instabilité, comme cela arrive aux jeunes gens, il a vu une autre. Il s'est rendu compte que j'ai l'impression que celle-ci est au brio. L'autre est au propre. Et il a cassé la relation qu'il estimait être au brio. Et il voulait traverser la ville pour aller créer la bonne relation. Il arrive au grand marché. Il a rencontré un homme de Dieu qu'il a rencontré à Kisangani il y a plusieurs années. Il dit, Yaroulan, à midi sous le soleil. On s'est juste rencontré, il m'a salué. Il m'a dit, mais je lui dis, comment ça va? Il dit, Dieu me dit de te dire, ce que tu veux de détruire vient de lui. Ce que tu es en train de vouloir construire ne vient pas de lui. Kola Pambola. Alléluia! Il me dit, on me l'a dit à midi. Je suis resté sous un arbre chaos technique jusqu'à 16 heures. J'ai dû rentrer aller reconstruire ce que je venais de détruire. Que Dieu reste Dieu. Que Dieu parle. Alléluia. Dieu parle encore aujourd'hui. Donne-nous des gens qui nous communiquent quelque chose. Donne-nous des gens qui nous communiquent un rêve. Donne-nous des gens qui font revivre en nous des choses qui semblent mourir. Je me souviens des séjours des 74. Je ne sais plus très bien c'était quand, mais je sais simplement que c'était avant les combats à l'Iforeman. J'étais à l'école primaire et ces jours-là, j'ai subi les pires humiliations de ma vie. On ne s'est pas entendu avec un ami et puis je l'ai vu monter d'abord au tableau et puis plus tard, il le fera à la récréation comme une proclamation. Il est dans toute cette école, c'était épée 4, Athénée de Kalina. Il a dit, tous nous sommes noirs. Et il a dit, tous les noirs sont de bleu. Mais ici à l'école, il y a des bleus ciel et les bleus foncés. Il dit, parmi les bleus foncés, c'est Roland Dallon. Il a d'abord écrit ça au tableau et tout le monde s'est mis à rigoler. Et puis la récréation aussi l'a rassemblé. Tout le monde dit, je vais faire la proclamation. Celui dont le teint ressemble aux chaussures noires. Il a dit, tous on est bleus, mais lui il est bleu foncé. Je faisais l'avant-midi, je me suis mal senti. J'ai pas l'impression que les cours après la récréation, j'ai bien suivi. Et mon père était directeur dans la même école, mais lui faisait l'après-midi. Épée 4, lui il était dans épée 2. Je ne sais pas sûrement, on lui a dit. Il n'avait jamais l'habitude de venir me chercher. À la dernière heure, j'ai entendu un petit communiqué. Roland, son père demande qu'il puisse les voir à la fin des cours. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Quand je suis rentré dans son bureau, il m'a fait asseoir, il m'a regardé dans les yeux. Il m'a dit, jeune homme, tu es très beau. Amen. Puis jeune homme, j'aimerais te dire une deuxième chose. Tu es très intelligent. Et chaque fois que je te regarde, je suis fier de toi. Et regarde-moi. Tu iras très loin dans la vie. J'avais l'impression d'être dopé. Je suis rentré l'après-midi en étudiant. J'ai dit, vous verrez avec mon bulletin ce que les bleus français peuvent faire. Les semestres qui a suivi quand on a proclamé les bleus français étaient premiers. Des fois, il n'y a pas mieux que l'adversité pour vous booster. Mais donne-nous sur le chemin de la vie quelqu'un qui croit en nous. Quand vous rencontrez quelqu'un qui croit en vous, tout change. Nous en avons parlé l'autre fois. David a rencontré sur le chemin de sa vie quelqu'un qui croyait en lui. Jonathan qui lui a dit, ne crains rien, tu deviendras roi. Mon père le sait, donne-moi quelqu'un qui croit en moi. De temps en temps, quand j'ai suivi la chaîne de Coutinho autrefois, j'aimais beaucoup la scène. Il semble que c'était son cousin ou son neveu qui s'appelait Ndunga Ndunga. De temps en temps, quand il chantait, il s'arrêtait, puis il disait, Coutinho Fernando et Ozaya Nzambe. On a de temps en temps besoin, Moutoumoura Ndimakayo. Alléluia! Dis quelque chose à ton voisin en quelques minutes, encourage-les. Je ne vais pas avoir comme mari quelqu'un simplement qui voit que je rate de temps en temps la sauce, de temps en temps je rate le foufou. Donne-moi aussi un mari qui peut dire, ça tu fais bien. Dans tel aspect, tu le dépasses. J'ai assisté à des réunions, des comités dans une église à Nairobi et on avait un couple. Ces couples, quand les maris intervenaient, la femme restait, kweli, 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 kweli. On pouvait dire un fan club. Un jour, son mari est intervenu en pleine réunion. Et là, arrêtez les gens. Yo, moi, il est où Tarawapi? Et on a vu cet homme qui se sentait bien. Donne-moi quelqu'un qui m'encourage. Donne-moi des parents qui me propulsent. Donne-moi des parents qui me disent, tu iras loin. Donne-moi une grande sœur qui me regarde et tu dis, tu es spécial. Donne-moi des petites sœurs qui me regardent, qui disent, grande sœur, tu iras loin. Donne-moi un pasteur qui dise, et toi, tu vas bouleverser le monde. Je le dis du haut de cette chair et j'aimerais le répéter. Ken, Atoms, Joël, Francis, vous irez là où je ne suis pas allé. Vous accomplirez tout ce que moi j'ai accompli tard. Dépassez-moi, surpassez-moi, allez de loin. Votre victoire sera ma victoire. Jésus-Christ lui-même a dit, ceux qui croiront en moi, ils feront des œuvres et ils en feront de plus grandes. Il a dit, Père, qu'il me surpasse, Père, qu'il me dépasse. Et Christ a été un prophète. La prophétie édifie, elle construit. Donne-moi quelqu'un qui me construit. Donne-moi quelqu'un qui fait remonter des choses. Donne-moi quelqu'un qui me dit, même si tu as un aujourd'hui qui n'est pas bien, tu iras loin. Je peux en parler du haut de ses chairs. Je ne fais pas la plus de mon épouse. Combien c'est dur d'être mari quand la poche est vide. Mais le meilleur moment d'être mari, c'est quand la poche est pleine. Tu sens vraiment que tu as ta place. Mais combien c'est dur. Je me souviens de Nairobi. J'arrivais plus à mettre le pain sous la table de ma famille. C'est assez intime, mais je peux en parler. Il y a eu un moment où j'arrivais même plus à acheter des bandes hygiéniques. Ça ne coûtait même pas l'équivalent de 1 $. Et j'ai vu mon épouse prendre les couches de notre troisième fille qui venait de naître et les utiliser. Je l'ai vu aller aux toilettes et je craquais, je me suis mise à pleurer. Mais elle venait des fois, elle me tenait à l'épaule et dit, Roland, ça passera. Ça passera. Des fois, quand on est au plus profond, malheur à nous si nous tombons sur une femme qui nous enfonce encore. Vous la retrouvez dans un coin, Angamabana. On se sent déjà mal. Elle vous enfonce encore. Donne-nous quelqu'un qui nous encourage. Donne-nous quelqu'un qui nous propulse. J'arrivais pas à l'envoyer au salon de coiffure. Elle adaptait des choses. Ni en tabac, tout est paille. En disant que ça va passer. Pas possibilité d'acheter la crème. Ma foutambi là, et que sais-je encore? Elle disait, ce n'est qu'une transition. J'aimerais dire, la transition ne dure jamais éternellement. J'aimerais dire à une femme, si tu sais très bien gérer la transition avec ton mari, tu mangeras les choses qui sont devant. Mais tu peux aussi, par tes réactions, tuer ton mari durant la transition. Ma papa va commencer là-bas à AVC, les loups. À 46 ans. Quoi? Mais deuxièmement, cette parabole aussi communique la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Par cette parabole, Christ veut dire, n'ayez pas peur de commencer. Par cette parabole, il veut dire, dans les petites choses d'aujourd'hui, se cachent les grandes choses potentielles de demain. Par cette parabole, il veut dire, personne ne croira en votre demain plus que vous-même. En Zacharie chapitre 4 verset 10, Jéhovah parlant de quelque chose de glorieux qu'il savait qu'il allait venir, il dit à son serviteur, car ceux qui méprisaient les jours de faible commencement, se réjouiront en voyant les niveaux dans les mains des Zorobabel. Les gens ont l'habitude de mépriser les faibles commencements. Ils aiment que le commencement soit grand. Laissez les gens mépriser les faibles commencements. Vous avez cette pensée de commencer cette entreprise. Commencez-la. Et Bill Gates était ici ce matin. Il vous dira, j'ai commencé petit, mais maintenant je pèse. J'ai rencontré un homme qui a plus de 50 véhicules dans l'état de Charlotte aux États-Unis. Il dit, j'ai commencé avec un seul véhicule qui tombait en panne régulièrement. Mais 6 ans après, j'en ai 50. Un jeune Congolais. Ne méprisez pas les faibles commencements. J'ai rencontré dans la ville de Paris un garçon qui a grandi ici en Ngiringiri, qui a une entreprise de plus de 500 personnes. Ils font les gardiennages dans les aéroports, dans les gares de train. Et parmi les 500... il y a 150 noirs, 350 fils des Durand et Durand. Donc vous remontez jusqu'à la 15e génération des Villepin, des Français de souche, travaillant pour un jeune Congolais à Kolona Ngiringoto. Il dit, quand j'ai commencé, moi-même j'étais gardien, j'ai vu le système, j'ai dit, Nakosalango. Quand j'ai commencé, tout le monde me décourageait. Je me suis dit, tout le monde ne va pas vous encourager au départ. Il y a des gens qui ne croiront en vous que si vous foncez et si vous réussissez. Ne méprisez pas les faibles commencements. Et dans la foi que cette parabole veut communiquer, elle dit et crier aux oreilles des apôtres, osez, faites votre part. Pour que le grain de sénévé, la plus petite des semences, se transforme en un arbre. Il y a quelque chose d'important. Il est dit que cet homme a pris son grain et l'a semé. J'aimerais vous dire, les grains ne deviendront jamais arbres si vous les gardez dans votre poche. Les grains ne deviendront jamais ces grands arbres si vous les gardez dans votre tiroir. Seigneur, donne-moi quelqu'un qui ce matin, tu as mis un rêve dans ton cœur. Vas-y! Petit cabinet d'avocat, vas-y, commence. Fera ce que Dieu fera avec. Donne-moi quelqu'un qui veut s'aimer. Et si la sémaille est notre part, la croissance est la part de Dieu. C'est Dieu qui fait croître. Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6 à 7, j'ai planté, Dieu a fait croître. Et puis il ajoute, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, mais Dieu qui fait croître. J'aimerais dire à quelqu'un, ose planter. Il y a un spécialiste en croissance. Dans 1 Chronique 29 au verset 12, celui qui avait hérité d'un faible royaume et qui a vu celui-ci se transformer en quelque chose de grand, David, il s'appelait. Il dira au soir de sa vie, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines tout. Mais j'aime surtout la fin. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Quand Dieu décide de rendre large quelque chose, quand Dieu décide d'étendre les limites, rien ni personne ne peut arrêter. Dans Genèse 32, verset 10, un homme qui a connu la croissance, qui fait un constat sous forme d'action de grâce, il dit, j'ai passé ces Jourdains avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. J'avais un grain, mais j'ai vu ce que cela peut produire. Et par rapport à la croissance, j'aimerais dire trois dernières choses. Et cette dernière chose, je la tire aussi d'une parabole. Dans Marc au chapitre 4. Marc chapitre 4, versets 26 à 28. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence à terre. Donne-nous à Philadelphie des jeteurs de semences. Et il dit qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît. Et j'aime surtout la dernière phrase, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, d'abord, dites avec moi d'abord. Ah, il y aura toujours un d'abord. C'est pourquoi ne faites pas de votre minimum, de votre maximum ou les maximums de Dieu. D'abord l'herbe, puis l'épi. Dites avec moi, puis l'épi. Dans les d'abord que vous avez, il y aura un puits. Et puis encore les grains, tout formés. C'est trois choses que je veux mentionner. La première, c'est que la croissance requiert, après la partie du départ, très peu de nous. Très peu. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut travailler pour toi sans toi. Il y a des gens, quand ils ont semé, ils veulent même elles-mêmes diminuer, rentrer sous la terre, aller s'occuper du grain et provoquer la germination. La semaille, c'est votre part. La germination, c'est la part de Dieu. Dis à ton voisin, laisse Dieu être Dieu. Très peu de choses. Et j'aime beaucoup ce que Christ lui-même dit. Il dit qu'il dorme ou qu'il veille. Cela ne dépend pas de toi. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît. Pas indispensable. Là. Deuxième vérité, la croissance est un mystère. Un mystère. Un mystère, c'est quelque chose d'inexplicable par la raison. Un mystère, c'est une réalité difficile à comprendre et surtout à expliquer. Il dit qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour. La semence germe et croît sans qu'il sache comment. Il y a des choses pour lesquelles vous ne ferez qu'un constat. Je me suis retrouvé un jour à un endroit, j'aime pas trop les journalistes, j'aime pas trop la télé, à part quand on fait passer les messages, j'aime pas trop passer dans les émissions. Il y a des gens qui sont spécialistes en tout. Ils ont une explication à tout. Spécialistes en croissance de l'église. Un jour, je rencontrais un journaliste quelque part, il dit, je viendrai te faire une interview. J'aimerais te poser la question, quel est le secret de la croissance de Philadelphie? Je lui dis, je connais le secret. Il a dit, c'est quoi? Je dis, je ne sais pas. Et j'aimerais vous dire, quel est le secret? Je ne sais pas. Je suis content simplement que ça germe et que ça croît. Quoi? Je ne sais pas. Oh, c'est dû à, je ne sais pas. Je constate un mystère. C'est pour ça que j'aime chanter Yahweh, Yahweh, Salah. Yahweh Salah Lulengena yo. Yahweh, Yahweh. Dit s'écrit pour bien élever ses enfants. On écrit ça en best-seller. Ah, c'est vrai, l'homme a peut-être sa part à faire, mais tout est grâce de Dieu. Non, je fais grandir mes enfants, ils n'ont pas touché à la drogue, ils n'ont pas parce que je faisais ceci à Tcha. Pamsou Bazoise, Minaloupan, Wabi Marate. Domestique Gabriel a s'occupé naïe. C'est pour ça que j'aime quand on chante Ezali Kambo. La croissance est un mystère. Dans 1 Corinthiens 15, verset 10, l'apôtre Paul dit, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux tous, mais non pas toutefois moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Je ne peux expliquer comment Dieu attire les hommes, je dis. Je ne peux expliquer comment Dieu attire les gens lors des séminaires. Je ne sais expliquer cela, je constate simplement. Et il m'a dit, tant que tu seras humble et que tu constateras, je te donnerai de constater encore. Il m'a dit, n'ose jamais te présenter un jour en spécialiste. Voici les secrets de la croissance. Et nous, les Philadelphie, nous avons le modèle. Il m'a dit, Roland, la roubette est qui s'embête. Si moi je ne le fais pas, je prie que tous ceux qui partagent avec moi la charge du ministère ne le fassent jamais. Jamais. Qu'ils dorment ou qu'ils veillent, la semence germe et croît sans qu'ils sachent comment. Vous avez commencé les mêmes affaires avec les autres, mais inexplicable, chez vous ça marche. Vous tous vous allez à Dubaï, les autres ça marche, pas chez vous ça marche. Vous avez les mêmes voix. Vos chants ça porte, les chants des autres ça ne porte pas. Vous tous vous avez les mêmes machines. Mais quand les chefs regardent ces lettres telles que c'est tapé, mais c'est fantastique. Vous allez dans une même mission, vous ramenez les mêmes rapports avec les mêmes dictionnaires, avec la même conjugaison que vous avez étudiée. Mais quand on lit vos rapports, on dit, mais c'est fantastique. Vous tous, vous êtes couturiers, mais Dieu t'a donné une forme de doigté que tu ne peux expliquer. Non, ne te dis pas, ngai, nazamutumu kwa bro. Et troisièmement, la croissance requiert du temps. La croissance requiert du temps. C'est-à-dire, on ne passe pas du grain à l'arbre. Il y a un processus. C'est-à-dire, une succession d'événements et d'étapes, un enchaînement d'opérations qui aboutit à un résultat. D'abord, puis, et puis encore, j'aimerais dire à quelqu'un, laisse Dieu se servir du temps pour t'amener là où il veut t'amener. Des fois, nous voulons devenir en 10 secondes ce que les autres sont devenus en 20 ans. Le temps. Enchaînement d'actions planifiées par une intelligence pour aboutir à un résultat. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis les grains, tout formé dans l'épi. En se servant du temps, ton créateur peut faire deux choses. La première, soit te faire passer par un processus normal, long, mais soit il te fait passer par un processus accéléré. Quelquefois, il le fait. Il brise lui-même les lois. Il place une autre loi, c'est la loi de la vitesse. Et je l'ai senti depuis le début de la semaine quand j'ai prié. Dieu m'a dit, Roland, la loi de la vitesse va travailler à Philadelphie. Je vais faire des choses inimaginables. Dans Jonas, chapitre 4, versets 6 à 10, quand Dieu a vu que son serviteur était dans les besoins, certes, l'idée cachée, c'était l'enseigner. Il s'est retrouvé à un endroit où il faisait chaud. Dieu a dit, je vais faire croître un arbre, un raisin. Normalement, ça prend du temps. Mais quand Dieu veut s'occuper de vous, il peut faire qu'un arbre puisse croître en un rien de temps. Jonas constatait la vue. Et puis, il a eu l'ombre. Quand j'ai lu ce passage hier soir, ça s'est imposé à moi. Dieu m'a dit, je vais faire des choses qui ne vont pas respecter les lois. Je vais donner à certains en quelques temps ce que les autres ont en beaucoup de temps. Ne méprisons pas le faible commencement. Avant que nous puissions prier, si vous circulez aujourd'hui dans le monde, vous rencontrerez une grande entreprise appelée KFC, Kentucky Fried Chicken. Il semble de plus en plus, ils veulent même s'installer ici. C'est l'un des meilleurs poulets frits au monde. Les statistiques disent que chaque jour, 8 millions de personnes consomment les poulets de KFC. Il y a plus de 14 000 restaurants KFC au monde. Et ces entreprises utilisent plus de 500 000 personnes. Mais tout est parti d'un petit état de Louisville. Un jeune colonel appelé Sanders a découvert 12 sortes d'herbes avec des aromates. Il a dit, je vais commencer à les mélanger pour faire du poulet. Et il a commencé dans sa petite ville, timidement, entre 40 et 51, il avait difficile à avancer. Et puis plus tard, il y a eu la guerre du Vietnam. Il a été envoyé là-bas, il a commencé à préparer pour les militaires américains au Vietnam. Et c'est là où ça a pris la publicité, ça, la publicité a été faite. Quand la guerre a fini, ils sont rentrés, tous les militaires qui étaient passés par là ont dit, est-ce qu'on ne peut pas nous faire goûter notre poulet là? Et c'était le point de départ. Le petit colonel Sanders qui était dans sa petite ville, ne savait pas que c'est qu'il commençait son visage, il sera aujourd'hui en Afrique du Sud, en Australie et partout. Dieu me dit de dire à quelqu'un, ne méprise pas les faibles commencements. C'est un grain, mais dans ces grains se cache un arbre. Il y a un arbre dans les grains. Laisse le temps au grain, il deviendra un arbre. J'aimerais qu'on baisse nos têtes dans la prière. Prier. L'Esprit de Dieu me met à cœur fort. Il y a plusieurs qui ont des projets. Qui soit ils veulent commencer, ou soit qu'ils ont commencé timidement. Dieu me dit, ne lâchez pas. Le royaume des cieux est semblable à un grain, la plus petite des graines. Mais lorsqu'on l'a semé, il devient grand. Je prie que le prédicateur et les enseignants restent un moment, mais je prie surtout que les conseillers soient à la disposition. Quelqu'un qui a un projet, quelqu'un qui a commencé quelque chose, et qui quelquefois sent le découragement, il veut s'arrêter, ne partez pas. Venez, tenez-vous la main dans la main avec un conseiller, tenez-vous la main dans la main avec un prédicateur, et priez. Ce matin, Dieu m'a dit de vous dire, ayez foi en ce que vous faites. Votre demain est plus grand que votre aujourd'hui. J'aimerais lancer un double appel avant que nous puissions prier. Dieu ne transforme ce qui est petit en grand que pour ceux qui lui ont donné une place dans leur vie. Pas ceux qui vont à l'église, pas ceux qui sont passés par quelques sacrements. Vous désirez que Dieu transforme votre grain en arbre et même un arbre grand. Donnez-lui cette possibilité d'habiter votre cœur, de la conduire, de le conduire, de le diriger. Et vous verrez ce qui peut en dérouler. Si ce matin, Dieu vous a parlé, vous voulez que ces choses se passent, mais vous avez aussi la certitude que soit la crainte de Dieu n'a jamais été votre partage, ou elle a été, mais vous l'avez perdue. Et vous voulez, certes, que vos petites choses deviennent grandes, mais vous réalisez d'abord que vous devez rectifier certaines choses. Je vous demanderai de vous lever là où vous êtes, afin de faire ce premier pas qui permettra à Dieu de faire le reste des pas. Merci. Y a-t-il encore quelqu'un d'autre? Je vous en supplie, il n'y a pas un spectacle. S'il y a un spectacle, c'est dans ton cœur, dans mon cœur. Le deuxième appel que j'aimerais lancer, y a-t-il quelqu'un qui a commencé timidement et qui sent que les choses tardent? Y a-t-il quelqu'un qui veut commencer mais qui a l'impression que ses débuts sont modestes? Je ne sais dans quel domaine. Y a-t-il quelqu'un qui ose faire quelque chose mais a l'impression que la mayonnaise ne prend pas? Mais ce matin, Dieu a boosté ta foi. Et tu veux dire, je vais oser encore. Prie avec moi, pasteur. À toi, je te demanderai aussi de te lever. Alobinangayo salakabikamo. Yangonaye. Salé la pengaye. Nous allons chanter ces cantiques. Maître Malengo, Dieu m'a dit, ne prie pas. Déclare. 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 Déclare des choses. Déclare dans différents domaines. Proclame. Fais cesser des choses. Et appelle des choses à l'existence. Et papa Olivier priera pour Clore.
Osala kabikama, Yesue. Yango na ye, Yesue. Salelanga. Yesu o balo binanga Sarikama, Yesu, Oyango Malaye,
voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.